je ne suis pas sociologue, donc je ne vais pas vous donner de définition. Je vais essayer de partager avec vous le type d'expérience qui m'a fait penser à propos de la confiance. Bon, la confiance, je crois que si on commençait à parler de la confiance dans tout ce que ça veut dire, on se mettrait au coin du feu et on parlerait jusque dans 3 ans. Parce que depuis les premiers pas marchés, qui implique que quelque part un rapport de confiance avec les adultes s'est établi. Vous vous souvenez des terribles histoires de petits-enfants dans des orphelinats roumains dont les besoins corporels étaient assurés et qui couraient à 4 pattes. Donc depuis ce moment-là, jusqu'à même faire des maths, qui est pourtant l'activité qui semble la plus explicite et la plus rationnelle possible, on retrouve la question cruciale de la conscience partout. En ce qui me concerne, je n'ai pas confiance quand je descends les escaliers, je peux vous dire que ça colore ma vie. Par contre, j'ai confiance que vous m'écoutez, ça colore aussi la manière dont vous me parlez. Donc, on ne dira jamais assez à quel point la confiance fait partie de l'économie implicite de toutes nos relations avec nous-mêmes, avec les choses, avec le monde, avec nos propres activités. Mais probablement dramatiser, c'est un mot que j'aime bien, la question de la conscience, de la confiance, quand il s'agit de, je cite, abus de confiance, gagner la confiance, perdre la confiance, mériter la confiance, être à la hauteur de la confiance, trahir la conscience. Là, tout à coup, on a affaire à quelque chose de crucial, au sens où on sait que ce sont des événements qui se jouent et pas seulement des contrats. Des choses peuvent être brisées qui ne se répareront jamais. Des choses peuvent être gagnées et rendre possible ce qu'on pourrait croire impossible. Donc là, il s'agit non pas de quelque chose qu'on retrouve partout, mais d'enjeux. Et d'enjeux graves pour notre vie ensemble. Et c'est par rapport un peu à cela, lorsqu'il s'agit du rôle des sciences et des techniques dans nos sociétés et pour notre avenir commun, que je vais essayer de vous parler. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais, à votre invitation, que je n'avais jamais cessé de penser à ça. Notre époque est, du point de vue du rôle des sciences et des techniques, marquée par la possibilité, l'existence quasi palpable, quoique non encore majoritaire, d'une perte de confiance que les intéressés, et surtout les scientifiques, mettent sous le signe de la montée d'une irrationalité. Et c'est prendre, comment dirais-je, une autre position, tout en reconnaissant que le moment est grave, que je vais tenter. Donc, du point de vue usuel, on peut dire que par rapport à un grand discours, par rapport à ce qu'on appelle des opinions, un avis de technicien ou un avis de scientifique sera souvent considéré comme fiable. La fiabilité, c'est le corrélat de la confiance. Fiabilité, ça veut dire digne de confiance. Et effectivement, on pourra dire que dans les deux cas, quoique sur des modes différents, ces énoncés, s'ils sont effectivement produits avec la compétence qu'ils présupposent, n'existent qu'à la suite d'épreuves extrêmement exigeantes et qui donc sont susceptibles de mériter la confiance de ceux à qui on les communique. J'ai dit très différent parce qu'en effet, l'historicité des techniques est beaucoup plus ancienne que celle des sciences au sens sciences modernes. Et que, en plus, la technique, et ça m'intéresse, on a aussi à parler d'expertise, la technique est quelque chose dont on pourrait dire que la question de la fiabilité se pose sur un mode où le rapport à la démocratie est beaucoup plus facile. Je parle de vrais techniciens, pas de technocrates. Pourquoi ? Parce que la grandeur du technicien, c'est souvent... C'est le plus, s'il a une grandeur, c'est d'accepter les problèmes tels qu'on les lui pose. C'est-à-dire, et que donc, l'historicité de ce que demande une société, avec les contingences, se marque très fort dans les propositions techniques que nous avons. La différence a été encore plus remarquable dans les années 50 que maintenant, mais la différence entre un avion et une automobile vient de ce que, dans l'histoire de l'aviation, les accidents ont été dramatisés et la sécurité de ceux qui volent en l'air a été vécue, a été définie socialement comme cruciale, alors qu'une voiture qui crève un pneu et qui va dans le fossé a été vu comme un malheureux accident. Eh bien, ce qu'on appelle une voiture, ce qu'on appelle une route, ce qu'on appelle un trajet d'aviation, sont marqués par ces différences, et ce sont des différences où la technique a eu à répondre à des problèmes qui étaient posés différemment. Et là, il y a, je crois, un rapport qui est ce qu'il est, mais qui ne pose pas d'énormes problèmes à la démocratie. On demande à des techniciens, et ce sont des techniciens, que les jouets puissent être maltraités de toutes les manières possibles et imaginables par des enfants qui sont prêts à tout. Pour eux, ce sera un beau problème. Dans d'autres cas, eh bien, un instrument technique ne devrait être manipulé que par des gens qui s'y connaissent, à qui on peut faire confiance. Et donc pour eux, le fait de mettre un objet entre des mains à qui on ne peut absolument pas faire confiance, les enfants, et le fait de les mettre entre des mains à qui on peut faire confiance, ce sont deux problèmes tout aussi respectables. Il y a donc une souplesse de la technique au bon sens du terme, une capacité un amour de la solution à produire un problème sans juger ceci est-il un bon problème ou un mauvais problème, qui fait que j'ai une certaine tendance contre ceux qui désavouent la technique à honorer la technique. Et à honorer aussi certains, les experts techniques au sens où on les voit le plus souvent devant des tribunaux et où ils acceptent assez facilement, c'est la règle au tribunal, contrairement à l'expertise en matière de conseil politique, où la notion de contre-expert est bienvenue. Le tribunal exige le contre-expert. Donc l'expert technique n'est pas fâché, n'est pas, comment dirais-je, ulcéré de devoir affronter éventuellement un avis de contre-expertise, parce que l'expert travaille dans des mondes ouverts. Des mondes où ils doivent ajouter des choses, prélever des choses, mais non pas juger les choses. Le rapport entre expert et jugement est un rapport distant. Il en est assez autre chose en ce qui concerne les, malheureusement, et c'est d'où le problème, en ce qui concerne les experts travaillant au nom de la science qui est la leur. Pourquoi ? Parce que là, il me semble qu'on peut dire qu'il y a véritablement deux poids, deux mesures, au sens où la fiabilité d'énoncés scientifiques est très particulière. Je l'ai étudié dans son moment de naissance, à savoir Galilée. Et c'est vrai qu'il y a là, je ne vais pas vous refaire l'histoire parce que sinon on n'en sortirait plus, mais il y a là un événement dans l'histoire humaine, alors que la technique remonte à plus loin que notre mémoire historique. Là, il y a un événement dans l'histoire humaine qui peut être suivi et qui est pour la première fois dans Galilée créé ce qu'on appelle un dispositif expérimental tel que la manière dont les corps tombent témoignent de manière fiable de comment ils doivent être interprétés. C'est-à-dire, les choses interviennent, et interviennent non pas sur un mode rhétorique, mais sur un mode, qui donne autorité. Les choses interviennent dans des discussions humaines. Depuis toujours, les faits intervenaient, mais depuis toujours, les faits pouvaient être contre-interprétés par d'autres arguments. Ici, non, on a affaire à quelque chose qui doit son existence au fait que nul n'a pu le contre-interpréter. Et donc, il y a là quelque chose dont on peut dire c'est une fiabilité maximale, puisque ça a résisté à toutes les objections compétentes. Oui, mon cher, mais vous pourriez dire non. Je ne peux pas le dire, regardez, et c'est le dispositif expérimental qui répond et non pas le scientifique et ses opinions. Par contre, cette réussite, et c'est une réussite formidable, est une réussite extrêmement restreinte. Son lieu est le laboratoire. Son lieu est là où sont les dispositifs expérimentaux et l'ensemble des opérations de purification et de mise en scène qui font que ce dispositif est susceptible de répondre à une question. Ce qui signifie que ceux dont les objections sont recherchées, puisqu'ils constituent autant d'épreuves qui déterminent la fiabilité d'un énoncé de ce genre, eh bien, sont les collègues compétents, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés non pas au problème que nous nous posons tous, mais à ce problème, ce dispositif est-il une réussite ? Donc ce sont d'autres questions. Et le point critique, me semble-t-il, c'est que, autant lorsque les sciences expérimentales sont vivantes, et ça pourrait cesser très rapidement d'être le cas avec ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, ça, on pourra en discuter, mais lorsqu'elles sont actives et objectantes et controversantes entre elles, eh bien, cela se fait entre spécialistes, collègues compétents, et on entre dans un tout autre régime d'autorité et d'argumentation dès qu'on quitte ce lieu et dès qu'on intervient dans les questions qui se posent non pas en termes de fiable ou pas fiable, mais qui se posent parce qu'elles nous intéressent, parce qu'elles intéressent notre avenir. Et là, on peut dire que, contrairement aux techniciens, qui souvent peuvent, de technicien en technicien, prendre au sérieux le nouveau contexte où un énoncé joue, bien, les scientifiques, et on pourrait parler de Kuhn, vous en avez parlé, aura tendance à considérer souvent, et ils sont éduqués pour ça, le nouveau contexte avec la confiance, mais confiance déplacée, confiance éduquée, que ce nouveau contexte a pour point de départ le type de science qu'il représente. Il y aura le point de vue scientifique qui deviendra assez facilement le point de vue rationnel et le reste. Et cela donne effectivement un problème d'expertise assez inquiétant et qui réclame confiance au nom de la raison, au nom de la science et au nom du progrès. Pierre-Benoît Joly devait venir, et donc je vais un peu prendre la parole qui eût été la sienne, mais en l'occurrence évoquer l'affaire des OGM. On a vu donc dans la proposition des organismes génétiquement modifiés, des scientifiques monter au créneau et présenter cette innovation sortie des laboratoires scientifiques comme la clé du problème de la faim dans le monde, la clé de la lutte contre la pollution, etc. C'est-à-dire s'adresser, et il est très difficile parce que, ce sont des moments critiques quand on conteste cela, il est très difficile de savoir si le scientifique le fait parce qu'il y croit, parce qu'il ne s'est jamais posé la question de la faim dans le monde sérieusement. Mais la question est, pourquoi se fait-il confiance de parler de la faim dans le monde s'il ne s'est jamais véritablement posé la question ? Pourquoi ne s'est-il jamais adressé avant de se parler à d'autres qui connaissent des choses sur la faim dans le monde et les questions d'inégalité sociale, d'inégalité aux accès, etc., qui sont tout de même des composantes gigantesques de ce problème ? Pourquoi, dit-il, nous serons autant, il nous faut donc augmenter la productivité d'autant. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il pense que ceux à qui il s'adresse sont bêtes qu'il parle comme ça ? Ou est-ce que sa qualité de scientifique lui épargne de se poser des questions comme ça ? Il pense qu'il a de toute façon la clé rationnelle de la situation. En tout cas, le problème que posent les experts qui parlent au nom de la science, c'est justement qu'ils exportent en dehors du laboratoire des énoncés et des savoirs qui devraient, pour être valables en dehors du laboratoire, subir de nouvelles épreuves. Étant donné les questions qui se posent hors du laboratoire et qui ne sont pas celles qui, autour desquelles ont tourné les objections dans le laboratoire. Un énoncé, celui qui portait sur les OGM, c'était clairement le cas, change de nature selon qu'il désigne des OGM élevés dans des lieux confinés pendant une ou deux générations sous contrôle de laboratoire et selon qu'elle concerne des dizaines de milliers d'hectares et des temps relativement longs. Et cela, curieusement, eh bien, quand la question a commencé à être posée, on a découvert que les scientifiques semblaient n'y avoir pas pensé. Donc la question est effectivement, me semble-t-il, est-ce que, non pas est-ce que les scientifiques sont-ils fiables, comme si les scientifiques étaient une espèce qu'on pouvait définir intemporellement à partir d'un esprit scientifique. Non pas les scientifiques sont-ils fiables, mais les scientifiques tels qu'ils sont éduqués, tels qu'on leur dit ce qu'est la science et tels qu'on leur dit ce qu'est la non-science est. Est-ce que ces scientifiques-là, les scientifiques qui sont formés, au fond on pourrait dire ainsi depuis, ça a commencé au milieu du 19e siècle, cette idée du scientifique formé à son domaine et rien qu'à son domaine, est-ce que ces scientifiques-là sont fiables? Je dirais, la question mérite en effet d'être posée. Et l'idée d'une perte de confiance n'a rien qui puisse surprendre. Ceci dit, ces scientifiques disposent, et des sociologues avec eux, d'un modèle pour interpréter les pertes de confiance ou les obstacles qu'ils rencontrent lorsque certaines de leurs propositions sont contestées dans ce qu'on appelle globalement le public. C'est ce qu'on appelle souvent le modèle du déficit. S'il y a résistance, c'est que on a affaire soit à des craintes superstitieuses, à des rigidités, au fait que les gens n'ont pas compris, qu'ils manquent de savoir, le fait qu'ils ont des attachements irrationnels à la tradition. Le modèle de déficit dit deux choses. Le problème est toujours du côté de ceux qui perdent confiance, et jamais du côté de la proposition qui leur est faite. Et on ne peut pas faire confiance à la population. Et c'est la célèbre position science contre opinion, que Bachelard a merveilleusement, Gaston Bachelard, le philosophe français, a merveilleusement résumé en disant « Même quand l'opinion a raison, c'est par erreur. » L'opinion se trompe, même lorsqu'il se trouve factuellement, par hasard, de manière complètement contingente, la raison. Au modèle du déficit correspond une pédagogie que nous connaissons bien, avec les journées portes ouvertes des sciences, etc., qui s'adresse principalement aux jeunes, où il s'agit de faire aimer les sciences et de restaurer la confiance du public. Il y a, et si vous visitez des musées des sciences, c'est le cas, je dirais, mais sans aucune attention malveillante, qu'il y a une espèce de pédophilie dans le rapport des scientifiques aux sciences. On veut se faire aimer des enfants. Les ados, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils posent des questions. Tandis que les enfants, on aime leurs petits yeux pleins d'étoiles. Bon, eh bien, ce modèle du déficit a bafouillé, et a bafouillé publiquement, et je crois a bafouillé historiquement, en tout cas, j'essaye de le prolonger de telle sorte que cela fasse histoire, et d'autres le font en même temps que moi, à l'occasion de cette affaire des OGM notamment. Et on peut parler en cela, mais en parler, c'est essayer de le faire exister, moi j'en parle donc, de l'événement OGM. Pourquoi ? Parce que à cette occasion, on peut dire que du côté des contestataires, et par lien du côté de ce qu'on appelle le public, il y a eu un apprentissage qui est un apprentissage très bienvenu, portant à la fois sur la consistance de l'innovation qui était proposée, ce qu'elle fait tenir ensemble, le célèbre cui bono, à qui, comment dire, pour qui elle est faite, pour qui elle est bonne, sur l'étendue des conséquences qui n'avaient pas été prises en compte, sur la terrible hiérarchie des sciences qui font que, entre le scientifique de laboratoire et le scientifique de terrain, eh bien le scientifique de terrain, celui qui doit étudier des phénomènes qui se passent sur des temps longs et dans les champs, et non pas produire des démonstrations, au laboratoire, eh bien, entre eux, il y a un décalage tel que il y a déjà matière à lutte pour que les scientifiques de terrain, les agronomes, aient voix dans les comités de biosécurité et autres, et aussi sur la soumission des experts, mais des experts parlant au nom de la science, C'est-à-dire qu'on a vu, la question était de la contamination de, du, je crois que c'était le soja, je ne sais plus si c'était le soja, mais on a vu les premiers experts, tant que la crise n'était encore que grondante, dire « Ah ben, la distance de sécurité pour que les champs voisins ne soient pas contaminés, disons que c'est 2 km, je le dis à pouf, hein. Comme ça. Et puis quand on a creusé, c'était parce que c'était la distance économiquement plausible. Plus ça aurait été, et dans le procès auquel je suis arrivée, l'un de mes, où j'ai participé, l'un de mes co-inculpés, parce que j'ai un tout petit peu marché sur quelques deuxièmes, l'un de mes co-inculpés a montré à la juge, étant donné les champs expérimentaux, la manière dont, avec la première évaluation des experts sur la distance de contamination, on avait des taches sur la Belgique, elle avait la rougeole. Après quelques temps, les experts ont dû un peu élargir, et voilà que la Belgique avait des grosses plaques. Et après les dernières estimations, la Belgique était quasiment recouverte de zones contaminables. Et là, la juge a dit « mais j'habite là », et c'était dans une zone contaminable. Donc, vous voyez qu'on voit là la soumission des experts, c'est-à-dire que ces experts sont en fait nommés en Europe par, non pas par la DG de l'environnement ou de la défense de l'environnement, mais de la liberté du commerce. Et donc, ce qu'ils disent doit essayer de mettre, ils savent qu'ils sont dans un contexte où ils doivent mettre le minimum d'obstacles à la liberté du commerce et à la liberté d'entreprendre. Et au Royaume-Uni, il y a eu il y a quelques années une grande campagne pour informer le public modèle du déficit quant aux OGM et la, comment dirais-je, le résultat a été un flop avec l'idée, plus on en sait, plus on se pose de sérieuses questions. C'est-à-dire pas en fadeur pour briser les vitres, mais effectivement. Donc là, on a tout à coup une situation où la perte de confiance suit et traduit et produit ce qu'on peut appeler un processus de gain de rationalité. Plus on en apprend, plus on doute. Plus on se demande à quel jeu c'est on joue ou bien on a les réponses, on sait à quel jeu il joue. Et on peut dire que cet événement a aussi produit des conséquences tout à fait intéressantes chez les sociologues, puisqu'on parle de sociologues. Il y a eu cette enquête qui a été obtenue des autorités européennes, de sociologues européens un peu partout, auxquels Joly a participé, et où ils ont décidé d'interroger le public sur un mode qui ne présuppose pas qu'il est bête, et qu'on le juge bête. Non, non, ils ont créé des groupes focus, comme on dit, où ils leur laissent le temps de parler, de discuter, et ils écoutent les questions et les conclusions après un processus où leur coopération les rend, comment dirais-je, les met à la hauteur de la situation. Et effectivement, les groupes sont en général arrivés à des questions, ma foi, tout à fait intéressantes, non seulement cui bono, pour le bien de qui, mais qui suit vraiment les risques ? A-t-on les moyens de suivre ? On nous dit on suivra les risques. Qui le fait ? Avec quels moyens ? Et quelle garantie que ce suivi sera suivi des faits ? Et c'est aussi depuis ce moment-là qu'on s'interroge sur qui assure les agriculteurs à OGM. Toutes ces questions qui n'avaient pas été posées reviennent, remontent, et la situation devient de plus en plus concrète au sens où c'est justement une analyse concrète qui est digne au sens rationnel d'une confiance. Donc on peut dire que là, à qui faire confiance, effectivement, a pris un tour qui est nouveau, parce que c'était véritablement, il ne s'agissait pas d'une opposition comme à l'énergie nucléaire, où on peut être contre l'énergie nucléaire par principe. Hein? Non, non, là il s'agissait pour beaucoup de quelque chose, des organismes génétiquement modifiés par rapport auxquels, a priori, moi j'étais dans ce cas. J'avais pas d'inquiétude particulière. Plus j'en ai appris, plus Je veux dire, j'y étais opposée, et opposée pour des raisons extrêmement concrètes, du genre, il y a là une entreprise de transformation, non seulement dangereuse quant à ses conséquences, mais contestable, de transformation de l'agriculture et soumission, toujours accrue, aux droits de propriété intellectuelle. Les semences ne sont pas appropriables par droit de propriété, mais les gènes le sont. Et nous avons su qu'il y avait donc des... comment dirais-je, une police de surveillance. On ne peut plus faire confiance, Percy Schmeiser au Canada a été poursuivi parce que, non pas il n'a pas acheté de semences, mais parce que son champ a été contaminé, c'était pas du colza, c'était du flûte. J'avais noté. Non. C'était du colza. Bon, et au lieu de tirer la sonnette d'alarme et de demander qu'on vienne décontaminer son champ, bon, il avait mis son colza qui contenait un peu de colza, sous droit de propriété Monsanto en vente. Bon, eh bien, alors qu'il n'avait pas employé de Roundup, alors qu'il n'avait en rien bénéficié et c'était prouvé, et c'était reconnu, des avantages, entre guillemets, qui suivent la modification génétique, le seul fait qu'il avait récolté ce colza lui a valu poursuite. Et il a été condamné. Il avait volé quelque chose qui était sous droit de propriété. Donc, c'est une véritable transformation qui non seulement applique le droit de propriété, mais qui aussi suscite une atmosphère de défiance. Il y a des dénonciations. Monsanto encourage à la dénonciation par les paysans loyaux de ceux qui auraient ces... Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave de tas de points de vue. Et l'idée et le rôle que jouent les scientifiques là-dedans est effectivement absolument contestable. Alors la question maintenant, c'est, je crois que si je n'ai pas tort de parler d'événements OGM, eh bien, il faut se préparer à ce que ce type d'affaires devienne de plus en plus courante, c'est-à-dire à ce que... Des crises de confiance et des pertes de confiance dans des propositions présentées avec des arguments qui vont de la certitude scientifique au bien de l'humanité, qu'il y ait des crises à ce sujet-là. Et je ne dirais pas que c'est une réussite en soi, parce que je pense que la perte de confiance est quelque chose qui est en tant que tel dangereux. Le « tous pourris » n'est pas un triomphe de la démocratie. Donc je crois que c'est dangereux en tant que tel. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pour regagner la confiance. Ça veut dire qu'il faut se préoccuper d'une situation où la perte de confiance est légitime. Et de ce point de vue-là, je pense que la question est plus politique, effectivement, que psychologique, ou même sociologique. C'est une question politique que ce modèle... de comment on traite les objections du public, les objections des non-scientifiques, dès lors qu'une proposition d'origine scientifique est mise sur le marché, alors qu'il ne s'agit plus de science, il s'agit d'une modification de nos manières de vivre et de nous organiser. Une nouveauté très importante de ce point de vue-là, me semble-t-il, mais précaire, c'est certainement ce qui a aussi commencé ces dernières années, qu'on peut globalement appeler les jurys citoyens. Donc il s'agit, et ça c'est tout à fait important, je parle des jurys plus que de conférences. Pourquoi ? Parce que cela se met dans la lignée de quelque chose qui me semble important, qui est que dans les jurys d'assises, des citoyens sont tirés au sort. Ils sont quelconques et ils sont tirés au sort. Et beaucoup d'avocats et de juristes que je connais disent le fait qu'on remette la décision entre leurs mains, qui est une manière de faire confiance, les transforme. C'est-à-dire que très, très régulièrement, des jurys constitués de gens quelconques, encore une fois, font preuve d'une attention, d'un sens critique, d'une intelligence remarquable. Donc il y a une espèce de transmutation des personnes lorsque on leur fait confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait tout le temps, mais qui est quelque chose qui politiquement est très important. Et les jurys citoyens, donc, c'est quelque chose, on leur confie, ils ont été tirés au sort, et on leur confie d'avoir à donner un avis sur une situation. Et pour que cela soit possible, il y a une invention de quelque chose qui transforme de manière très intéressante la manière dont le modèle du déficit crée la relation entre science et citoyen, puisque les procédures s'organisent contre le modèle. Il faut d'abord que vous sachiez parce que vous êtes ignorant avant d'en décider à l'école. Et on commence, pour s'il est question de biologie, il faut savoir que tout organisme est constitué de cellules, que dans chaque cellule il y a un noyau, que dans chaque noyau, où on perd évidemment tout le monde puisque personne ne se comprend le rapport entre ça et la question qui est posée. Et donc ça c'est le moyen de faire perdre confiance dans les gens puisqu'ils ne voient pas pourquoi on leur dit ça. Le message qu'ils reçoivent de plein fouet, c'est « vous êtes bête et ignorant ». Bon, donc, il y a des procédures qui sont des opérateurs de mise à égalité active autour du problème. Il s'agit, et c'est de là que ça réussit, c'est sur ça que ça réussit, de conférer à la situation qui réunit le jury le pouvoir de faire penser tout le monde. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'une situation ait le pouvoir de faire penser et non pas qu'elle soit démembrée par les différentes opinions qui s'affrontent à son sujet, par exemple, mais pas elle, en termes des intérêts qui sont confrontés. Et il s'agit justement de faire jouer pleinement les débats entre experts. Et il s'agit de faire exister l'importance des groupes qui contestent, même s'ils ne sont pas experts au sens diplômé. C'est intéressant et c'est donc très précaire. Plein de manières de faire que ce genre de jury citoyen soit déconsidéré et que cette occasion où quelque chose de l'ordre d'une confiance peut se reconstruire soit perdue. Mais ça, c'est grave. C'est comme quand on dit « gare à la perte de la biodiversité ». Perdre un mode de construction possible de la confiance est une perte sociale et historique grave, parce que ça ne se retrouve pas. Donc, il faudrait défendre les jurys citoyens contre l'ensemble des manières d'en faire des choses cosmétiques. Par exemple, de décider la question sur un mode qui va la rendre respectueuse. Par exemple, d'interroger un problème sur ses modalités, et sur les modalités de sa solution et pas sur le type de problème et les solutions que ça requiert. Plein de manières, au fond, de rendre les jurys citoyens une procédure pour rassurer le public et lui faire croire qu'on l'écoute, alors que, en fait, les carottes sont plus qu'à moitié cuites. Bon, eh bien, je crois que défendre les jurys citoyens contre ce genre de choses, c'est quelque chose de tout à fait important. Et aussi se demander quel est leur rôle. Parce que jusqu'ici, les citoyens se sont sentis tellement, comme pour les jurys d'assises, je veux dire, honorés par le fait que, je vais bientôt terminer, par le fait qu'on les appelle, qu'on leur fasse confiance, qu'ils n'ont pas été trop regardants sur la portée de leur décision. Or, on ne demandera jamais à 12 citoyens tirés au sort de décider du sort des OGM. On ne vit pas dans ce monde-là et il n'y aura aucun monde où ça suffirait. Donc il me semble, et ça c'est une proposition que je vous fais, que c'est sur la question de la confiance que les citoyens pourraient intervenir. Finalement, ils entendent des experts et des contre-experts. Le rapport qu'ils pourraient faire, et qui lui pourrait faire une certaine autorité, ce serait sur la fiabilité des experts. C'est-à-dire, est-ce que ces experts qui nous disent ceci on peut leur faire confiance. Nous avons vu qu'ils étaient totalement incapables de répondre à cette objection, qui pourtant importe. Donc nous pensons, ce serait par exemple une solution, que nous ne savons pas si un jour nous pourrons accepter cette innovation proposée, mais aujourd'hui nous ne sommes pas capables. Aujourd'hui, les experts qui la défendent ne nous donnent aucune des garanties qui nous permettraient de faire confiance dans le, comment dirais-je, le caractère contrôlable, concevable, accompagnable de cette innovation. Et ça, je crois que c'est finalement là que ces citoyens donnent le plein sens de leur intervention. C'est sur le fait de forcer les experts et les contre-experts à entre-discuter et en tirer des conclusions, un peu comme un jury d'assises qui dit coupable, pas coupable, au sens nous avons été convaincus par tel ou tel ou tel argument. Et bien, si ça marchait, cela, ça voudrait dire effectivement un nouveau type d'éducation pour les scientifiques. Et un nouveau type de lucidité et de crainte pour les experts. Au sens où, justement, la manière dont ils sont éduqués ici ferait qu'ils sont balayés par les jurys citoyens. Parce qu'ils n'ont pas imaginé le type de question qui, pourtant, pour n'importe qui, est la question dont dépend la fiabilité d'une proposition. Donc, la science cunienne, qui produit des somnambules, pour qui le point de vue scientifique détermine tout le reste, deviendrait létal. Il pourrait être encore le cas pour le scientifique qui travaille au fond de son laboratoire, à des problèmes qui n'intéressent que son paradigme. Mais dès lors que l'on veut sortir et contribuer dans un monde où les questions ne sont pas scientifiques, ce serait une toute autre éducation. Eh bien, je crois que c'est d'initiatives comme ceci où on reconstruit une confiance, mais en sachant que les acteurs doivent changer, que les acteurs d'aujourd'hui ne méritent pas la confiance qu'ils demandent, en général, qu'ils ne sont pas éduqués sur ce mode-là. Ils sont éduqués pour exiger la confiance et non pas pour construire un rapport digne de confiance. Eh bien, je crois que c'est un des défis qui est vraiment vital pour l'avenir, évidemment. Parce qu'on va vers un avenir turbulent, je ne vais pas vous faire un laïus là-dessus, mais si, et un avenir où des propositions technico-scientifiques pourront jouer un rôle important, si ces propositions, on a des raisons de se méfier d'elles, on a des raisons de penser qu'elles répondent à un problème mais qu'elles cachent l'iceberg des questions qu'elles ne posent pas, eh bien, nous allons vers, comment dirais-je, vers des lendemains extrêmement dangereux. Ils sont déjà risqués, mais ils peuvent être déjà extrêmement dangereux. Je crois vraiment qu'un des problèmes de les plus urgents de notre avenir, c'est de cesser de s'adresser à la population comme devant être rassurée, devant faire confiance au sens de confidence, mais comme ayant à jouer un rôle qui réclame qu'on lui fasse confiance et qu'on construise les conditions où on peut lui faire confiance. Je vous remercie.